Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 24 novembre 2023. Le Hamas a libéré aujourd'hui un total de 24 otages après l'entrée en vigueur d'une trêve de 4 jours qui semble globalement respectée dans la bande de Gaza. Amnistie générale au Tchad pour les manifestations réprimées dans le sang en 2022. L'ONU et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont signé mardi l'acte de désengagement de la mission onusienne dans le pays.
C'est dit à partir du mois de décembre, cette année, l'année 2023. Donc là, c'est sans équivoque, c'est bien précis.
Christophe Lutundula Apala, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, nous fera des précisions dans la partie magazine. La Somalie intègre la communauté des États d'Afrique de l'Est, portant désormais à 8 les membres de l'EAC, dont le siège se trouve à Arusha, en Tanzanie. En Afrique du Sud, l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius sortira de prison début janvier. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. On commence par l'actualité africaine. L'opposition à Madagascar, largement regroupée au sein d'un collectif, a annoncé aujourd'hui, ce soir même, qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui doivent être annoncés samedi. Nous ne reconnaîtrons pas ces résultats truffés d'irrégularités et nous déclinons toute responsabilité sur l'instabilité politique et sociale qui pourrait en découler, met en garde le collectif de 11 candidats d'opposition dans un communiqué. Au Tchad, les militaires au pouvoir annoncent une amnistie générale, notamment pour les policiers et militaires, dans le cadre d'une manifestation réprimée dans un bain de sang il y a un peu plus d'un an. Le point avec Rosine Monizero.
Le Conseil national de transition a adopté la loi d'amnistie à plus de 92% des membres de cet organe législatif, nommé par le général Mahamat Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 2 ans et demi. Selon le texte, dans le cadre d'une volonté de réconciliation nationale, la loi s'applique à tous les Tchadiens, civils et militaires. Le 22 octobre 2022, des manifestants avaient protesté contre le maintien des militaires au pouvoir qui venaient de faire prolonger de 2 ans une transition de 18 mois au terme de laquelle ils avaient initialement promis de le rendre civil par des élections. Une cinquantaine de personnes avaient été tuées ce jour-là, selon les autorités, entre une centaine et 300 selon l'opposition, pour la quasi-totalité des jeunes tués par balles par les militaires et les policiers, essentiellement à N'Djamena. Avant son adoption, le projet d'amnistie avait soulevé un tollé dans les rangs de l'opposition et des ONG qui accusent le pouvoir de soustraire à la justice les policiers et les militaires, auteurs d'un massacre. Nous maintenons notre exigence d'une enquête internationale, a déclaré Adou Mahamat Boukar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, qui fustige une culture de l'impunité.
La Somalie a officiellement rejoint ce vendredi la communauté des États d'Afrique de l'Est. L'annonce a été faite par cette organisation régionale dotée d'un marché unique permettant la libre circulation des biens et des personnes. Les précisions avec John Lydon.
L'EAC, dont le siège se trouve à Arusha en Tanzanie, compte désormais 8 pays avec le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la RDC. Cette dernière était le dernier membre à avoir rejoint l'organisation régionale en 2022. L'annonce de cette admission de la Somalie a été faite en présence du président Hassan Cheikh Mahamoud. Fondée en 2000, la communauté des États d'Afrique de l'Est a notamment pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre ses États membres. Elle a établi un marché commun en 2010. Avec ses quelques 17 millions d'habitants, la Somalie porte le marché potentiel de l'EAC à plus de 300 millions de personnes. La Somalie a la plus longue façade côtière du continent africain, soit plus de 3000 kilomètres. Mais le pays fait face depuis plus de 16 ans à une violente insurrection menée par les islamistes radicaux Shebab.
L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius sortira de prison début janvier, ayant obtenu aujourd'hui une libération conditionnelle 10 ans après le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Les précisions avec Dili Diko.
Le département des services correctionnels confirme le placement en liberté conditionnelle de M. Oscar Pistorius à compter du 5 janvier 2024, a annoncé l'administration pénitentiaire dans un communiqué. L'ancien athlète sera libre mais soumis à une surveillance et obligé de rester dans un certain périmètre dans une banlieue de la capitale Pretoria, a ajouté l'administration. Pendant son placement conditionnel qui durera jusqu'au 5 décembre 2029, Pistorius devra suivre un programme de réinsertion incluant une thérapie pour ses colères ainsi que sur les violences faites aux femmes, a précisé à la presse le porte-parole de la famille de la victime, Rob Matthews. Il devra également participer à des travaux d'intérêt général. Pistorius ne s'est pas réhabilité en prison, a jugé June Steenkamp, mère de la victime. « Je ne crois pas à la version d'Oscar », a-t-elle ajouté dans une déclaration écrite. La famille ne s'est cependant pas formellement opposée à la demande de libération anticipée et s'est dite satisfaite des conditions imposées à Pistorius.
Une épidémie de dengue, maladie transmise par les moustiques, a fait 356 morts au Burkina Faso entre la mi-octobre et la mi-novembre, portant le bilan à 570 morts depuis le 1er janvier, a annoncé ce vendredi un établissement relevant du ministère burkinabé de la Santé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux premiers otages enlevés par le Hamas sur le sol israélien et amenés dans la bande de Gaza ont été libérés aujourd'hui au terme de l'accord négocié, notamment par le Qatar, quelques heures après l'entrée en vigueur d'une trêve anti-Israël et le mouvement islamiste palestinien. Alexandrine Oloignon.
Des otages israéliens ainsi que des Thaïlandais ont été libérés vendredi selon des sources proches du mouvement islamiste. Le Qatar, médiateur clé avec l'Égypte et les États-Unis, avait obtenu mercredi un accord portant sur une trêve renouvelable de 4 jours, pendant lesquels 50 otages retenus à Gaza doivent être libérés, de même que 150 Palestiniens détenus en Israël. Cette trêve offre un répit aux habitants de la bande de Gaza, assiégés et bombardés depuis le 7 octobre par l'armée israélienne, pour la première fois en 7 semaines de guerre. Aucun bombardement important, aucune frappe d'artillerie ou attaque à la roquette n'ont été signalées, bien que le Hamas et Israël se soient mutuellement accusés de tirs sporadiques et d'autres violations. Tous deux ont déclaré que la guerre reprendrait de plus belle dès la fin de la trêve. Des colonnes de chars israéliens ont quitté l'extrémité nord de la bande de Gaza, tandis que des camions d'aide sont arrivés d'Égypte à l'extrémité sud.
Un total de 24 otages donc, dont 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin ont été remis aujourd'hui au comité international de la Croix-Rouge à Gaza par le Hamas, tandis qu'Israël a libéré 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons, selon le ministère qatari des Affaires étrangères. Le premier ministre israélien a affirmé que lui et son gouvernement étaient déterminés à ramener tous les otages entre les mains du Hamas après la libération de 13 Israéliens dans le cadre de cette d'accord avec le mouvement islamiste palestinien. C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à accomplir tous les objectifs, a déclaré Benjamin Netanyahou dans un communiqué après 7 semaines de guerre dans la bande de Gaza tenue par le Hamas. Cela dit, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a jugé ce vendredi que le processus de paix israélo-palestinien est une idée à bout de souffle. Il exhorte donc la communauté internationale à reconnaître en lieu et place un État de Palestine. Le chef de l'État égyptien qui recevait au Caire les premiers ministres espagnols et belges a estimé que raviver le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens n'est peut-être pas ce qui est nécessaire dans l'immédiat. L'actualité américaine, les grandes enseignes de la distribution aux États-Unis espèrent que le temps frais et sec attendu aujourd'hui sur la majeure partie du pays incitera les clients à affluer en nombre dans leurs magasins pour cette journée du Black Friday, donnant le coup d'envoi de la période commerciale des fêtes de fin d'année, cruciale pour leur chiffre d'affaires. L'inflation pèse toutefois sur le pouvoir d'achat de nombreux Américains et leurs dépenses en cette période de fêtes devraient connaître leur plus faible progression depuis 5 ans. La plupart des grands distributeurs s'y sont préparés et ont nettement réduit leurs embauches de saisonniers. Le maire de New York, Eric Adams, est accusé d'agression sexuelle et d'autres inconduites qui seraient survenues en 1993, lorsqu'il était un fonctionnaire de la ville américaine, selon une plainte déposée mercredi par une femme. Un porte-parole d'Eric Adams a rejeté ces accusations, déclarant dans un courriel que le maire ne connaissait pas l'accusatrice et n'avait aucun souvenir d'une quelconque rencontre avec elle. Cette affaire s'ajoute aux soucis judiciaires d'Eric Adams, visé déjà par une enquête du FBI sur un possible financement illégal de sa campagne électorale pour la mairie new-yorkaise en 2021. Et puis en France, Nicolas Sarkozy était à nouveau devant le juge ce vendredi, réjugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. L'ancien président français, condamné en première instance à un an d'emprisonnement ferme, a contesté vigoureusement toute responsabilité pénale aujourd'hui, accusant une société de s'être enrichie dans son dos. Il a été condamné en mai dernier dans une affaire d'écoute à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme, une décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation. L'ex-chef de l'État comparaîtra en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Alexandrine Ollognon.
Les commerces se préparent à ce qu'ils espèrent être un nouveau record d'achat à l'échelle mondiale. Le Black Friday, le quatrième vendredi du mois de novembre, qui tombe cette année sur ce 24 novembre, connu pour les foules qui font la queue devant les grandes surfaces afin de profiter des premières heures qui suivent la fête de Thanksgiving, le Black Friday marque normalement le début officieux de la saison des achats de Noël. Les détaillants des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs essaieront de profiter de l'engouement suscité par cette journée. Le dollar a été freiné vendredi par l'incertitude de l'évolution des taux d'intérêt américains, tandis que l'euro a conservé ses gains de la nuit. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine avec 6 autres monnaies, a baissé de 0,029% à 103,73, restant proche du plus bas en 2 mois et demi, 203,17, qu'il a touché en début de semaine. En Afrique, les longs retards dans la restructuration de la dette de la Zambie ont entravé les investissements nécessaires, freiné la croissance économique, pesé sur les marchés financiers locaux et augmenté le coût de la vie pour la population. Selon le ministre des Finances, Sithumbeko Musokotwane, la Zambie a subi un revers majeur lundi dernier lorsque les créanciers officiels ont rejeté un accord préliminaire conclu entre le pays et ses détenteurs d'obligations pour retravailler 3 milliards de dollars en raison d'objections sur la question de savoir s'il offrait un allègement comparable de la dette.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumbatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Jean-Roger et bonsoir à tous.
Et la balle au panier pour commencer, la dernière étape avant la phase finale de la Basketball Africa League se joue actuellement en Afrique du Sud.
Oui, et plus que 2 matchs et on connaîtra les 3 qualifiés de la division S après la phase de poule. Place aux demi-finales prévues demain samedi en première heure. Les City Oilers de l'Ouganda vont affronter les Burundais de Dynamo. La seconde demi-finale mettra aux prises l'équipe locale des Tiger Capital au Malgache de COSPN. Les 2 finalistes plus le 3e seront qualifiés pour la phase finale prévue l'an prochain.
En football, après la dernière trêve internationale de l'année, les clubs reprennent la main avec le début de la phase de poule des interclubs de la CAF.
4 des 6 journées seront disputées d'ici fin décembre avant une pause due à la CAN prévue en Côte d'Ivoire et en ouverture aujourd'hui. En Ligue des Champions, 2 matchs au programme. Au Caire, dans le groupe A, les Égyptiens de Pyramide reçoivent les Congolais du TP Mazembe et puis du côté d'Alger dans la poule D, les Algériens du CR Belouizdad seront opposés aux Tanzaniens de Young Africans.
La suite des matchs de cette première journée se joue demain et dimanche.
Tout à fait. Et demain, on aura dans le groupe B Simba, ASEC Mimosa et Wydad de Casablanca, Joanen Galassi du Botswana. La poule C verra le duel 100% tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel. Puis Petro Atlético de Luanda, Al Hilal du Soudan. Enfin, le tenant du titre, Al Ahly du Caire, fera son entrée face au Ghanéen de Mediama en attendant le dernier match qui se joue le dimanche entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et FC Ouagadougou de la Mauritanie.
Page des sports VOA Afrique signée Élisée Oumbatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'ONU et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont signé mardi l'acte du désengagement de la mission onusienne dans le pays. Cela intervient pendant que Kinshasa et Kigali ont promis aux autorités américaines de prendre des mesures pour apaiser la tension entre les deux capitales. Eddie Isango, adjoint à Bruxelles, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala.
Oui, mais il faut lire bien la note sur le retrait accéléré, organisé, progressif et responsable de la MONUSCO. C'est dit à partir du mois de décembre, cette année, l'année 2023. Donc là, c'est sans équivoque, c'est bien précis.
Donc c'est bien précis, mais cet accord prévoit aussi trois étapes pour les retraits ou les désengagements. Quelles sont ces trois étapes?
Moi, je pense d'abord qu'il faut que les gens comprennent que le retrait des troupes, quelles qu'elles soient, ne se fait pas par un claquement des doigts ou par une sorte de bouton automatique. Non, ce n'est pas un phénomène d'automate. Il y a des périodes. D'abord, la première phase, c'est la phase que nous sommes en train de franchir, la conception de l'ensemble du processus dans tous ces compartiments avec une programmation et une identification des tâches à accomplir ainsi que des problèmes à résoudre. La deuxième phase, c'est la phase de mise en œuvre qui commence, et dans les cas d'espèce, avec une évaluation trimestrielle. Parce qu'il ne faut pas avancer les yeux fermés un peu. J'aime une expression du Gala qui dit ngoulou ngoulou, comme le cochon avec sa façon de se nourrir et qui entre partout sans voir exactement où il en est. Il faut savoir qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, quels ajustements à faire, de manière qu'à l'atterrissage, tout soit en ordre. Et la dernière phase, c'est en fait la phase de fermeture totale de tous les bureaux et la phase, j'allais dire même du départ, du dernier responsable de la MONUSCO. Donc, c'est clair, nous avons toujours dit accélérer et non précipiter. Il ne faut tout de même pas oublier que nous devons nous organiser pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle actuellement les vides sécuritaires. C'est-à-dire, il faut synchroniser de cette manière-ci. Si, par exemple, c'est une illustration que je prends, nous avons dit, vous verrez qu'on commence par le Sud-Kivu. Localité X, le troupe de la MONUSCO se retire, prenons comme ça, le 30 décembre 2023. Il faut que ça se synchronise tel que, quand les troupes s'en vont, la police nationale, les forces armées de la RDC, se déploient également, et là où l'administration congolaise n'est pas là, par exemple, prenons comme ça, les terrains occupés par les envahisseurs, les agresseurs et leurs supplétifs, il faut en même temps que l'administration vienne.
Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, le Centre d'action pour le développement, une ONG locale, dénonce des violations régulières des droits de l'homme dans le pays en épinglant les cas de torture et de détention arbitraires. Le cadre a enregistré à ce jour plus de 1100 cas de violations des droits humains. Ainsi, pour prévenir ces abus, l'ONG organise des forums dans les villes secondaires congolaises pour sensibiliser la population sur leurs droits. Le reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Ces forums communautaires permettent aux populations des villes secondaires éloignées de Brazzaville, cité de grande culture, de connaître leurs droits. Paola Osula de la ville de Vaud dans la Cuvette Ouest fait son témoignage.
Il nous a montré nos droits face à l'État. Vraiment, on était pleinement satisfaits parce qu'on ne savait pas, on ne voyait qu'on est utile dans ce monde au Congo. Mais on sait maintenant qu'on est des hommes, on a des droits.
À Madingo dans la Bouenza, le CAD n'a pas seulement abordé la question des droits civils et politiques, mais aussi celle liée à la santé et à l'éducation. Irma Dokisia et Aaron Bungu disent avoir pris conscience de leurs droits.
Vous êtes déplacé de Brazzaville pour venir dans la localité. C'est quelque chose qui nous a facilité la tâche parce que dans d'autres contrées, et ces formations se passent très souvent dans les écoles supérieures, par exemple à l'université. Mais à travers le CAD, nous sommes connectés dans le monde de droit.
Surtout le problème d'eau, de la santé et l'enseignement qui se pose à nous. Nous souhaitons que de telles occasions se pérennisent, que la communauté soit éduquée convenablement.
Le succès de ces forats est aussi dû grâce à l'implication des autorités locales, le cas de Jean-Marie Mabiala, chef de quartier à Madingou.
Les quelques participations de mon quartier, plus moi-même, nous allons faire le relais de répercuter tout ce que nous avons appris au cours de ce forum pour que petit à petit, que les gens se mettent sur la ligne droite. Auparavant, l'activité a été interdite, pourtant nous sommes venus en masse.
Le Centre d'action pour le développement explique que ce programme vise à prévenir les diverses violations des droits humains. Gershon Goboang, responsable des campagnes et plaidoyers au CAD.
Une gouvernance qui met les droits humains au centre du processus de décision. Il est donc nécessaire pour cela de former les communautés en droits de l'homme et plus tard d'initier des espaces de discussion entre les gouvernants et les gouvernés, les cadres de dialogue. Justement, ce projet entend répondre à un besoin qui est celui de la participation des populations au processus décisionnel.
Pour le seul premier trimestre 2023, le CAD a enregistré 1187 cas de violation des droits humains au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Après le Niger, Guillaume Soro a été accueilli par la junte burkinabé le 21 novembre dernier. Des visites qui font réagir beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, d'autant plus que l'ex-président de l'Assemblée nationale a avoué son intention de rentrer dans son pays. À Abidjan, les réactions sont multiples et diverses. Les détails avec notre correspondant, Ange Nomenio.
Le retour de Guillaume Soro est sur toutes les lèvres depuis qu'il a annoncé son intention de rentrer chez lui. Le pouvoir ivoirien qui a été saisi de l'affaire dit ne trouver aucun inconvénient quant au retour de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Koulibaly, ministre ivoirien de la Communication.
Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Vous avez tous suivi ici les mouvements de tous ceux qui sont entrés dans le pays. Tous ceux qui ont voulu rentrer sont entrés. Maintenant que quelqu'un refuse de rentrer, c'est sa responsabilité. On ne peut contraindre personne à rentrer.
Après le Niger, Guillaume Soro a été reçu cette semaine par la junte militaire burkinabé. D'aucuns estiment à Abidjan que tous ces déplacements dans la sous-région s'assimilent à de la provocation. Certains analystes politiques plaident pour une résolution diplomatique. Moussa Chérif, analyste politique.
Pour moi, c'est la voie diplomatique. Et la voie diplomatique, moi, je la situe à deux niveaux, au plan national et au plan international. Parce qu'en réalité, le plan de Soro va au-delà de la Côte d'Ivoire. Le plan de Soro, si vous analysez bien, c'est l'ordre mondial même qui est mis en cause. Parce que, effectivement, quand vous regardez la junte de part et d'autre qui sont venus, il y a eu un sommet entre la Russie et, c'est pour ça qu'il me dit au fait, entre la Russie et ceux de la junte. Et le président du Burkina a fait un discours devant le Poutine. Donc, du coup, ça veut dire que ils ont créé le BRIC, ainsi de suite. Donc, on rentre vers un autre ordre mondial.
Après 5 ans d'exil, Guillaume Soro a annoncé son retour. Mais il n'est toujours pas en Côte d'Ivoire. Il fait l'objet d'une condamnation à 20 ans de prison. Ange Bijou Nomenon pour VOA Afrique, à Abidjan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En exclusivité sur VOA Afrique, l'auteur, compositrice, interprète et productrice franco-camerounaise Nicole Wang, alias Nico, and the Red Shoes, sort aujourd'hui son album Time is Love, mixant la pop, électro et house sud-africaine. Jointe par Nathalie Barge, elle explique son travail sur cet album, dont Mathilda, single de 7 minutes, qui va vous entraîner sur le dance floor.
Fairies and peers, take me to love. This girl's that so lonely traveler.
Pour cet album, j'ai fait appel à des amis pour la réalisation de la musique. J'ai travaillé avec un réalisateur, un jeune réalisateur, compositeur, mais arrangeur aussi. À quatre mains, on a travaillé sur toute la réalisation. Il s'appelle Martin Murard. Ensuite, j'ai fait appel à Léo Gapitos, qui a une sensibilité très club, très électro, pour réaliser cette partie que je voulais vraiment très dansante et pour le dance floor. C'est un travail qui a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait que chaque personne apporte de son savoir et de sa sensibilité tout en respectant ce que moi je voulais entendre jusqu'au bout.
I heard your steps in the door, watching over your shoulder, you didn't notice at all.
Pour les clips, je voulais également inviter des artistes qui m'ont touchée, que j'ai rencontrés dans mes déplacements ou dans des rencontres artistiques, comme le jeune artiste activiste éco-futuriste Prissy Numbi, qui travaille exclusivement avec des déchets industriels auxquels il redonne vie en les transformant en robots, qu'il incarne à travers des performances de déambulation dans les villes du monde. Et il y a eu la rencontre avec Pierre Mance, une autre performeuse originaire du Congo, qui a participé à la réalisation du clip Mathilda également, et qui travaille exclusivement avec le corps sur les sujets qui touchent à la condition féminine et au genre. Radio, les chansons vont très rarement dépasser 3 minutes, alors que Mathilda dure 7 minutes. C'est parce que je voulais rien me refuser. Je voulais aller au bout de toutes mes idées et je voulais surtout que ça m'entraîne et que ça entraîne tout le monde sur le dance floor. Alors Mathilda, c'est un mélange de musique pop, d'électro sud-africaine qu'on appelle la mapiado. C'est une musique qui est née dans les townships sud-africains, mais qui est aujourd'hui très en vogue. Et la mapiano a cette particularité que toute la session rythmique, les percussions en fait sont jouées comme des instruments mélodiques, donc d'accompagnement. Et ces instruments non seulement font les mélodies, mais sont mis en avant comme la batterie qui fait des mélodies et qui fait danser en même temps.
Retrouvez l'auteur, compositrice, interprète franco-camerounaise Nicole Wang avec des extraits de son album Time is Love, mardi dans Le Monde au Féminin. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.